France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, Kurt Weill fait partie de ces compositeurs que l'on réduit à une ou deux œuvres, en l'occurrence l'opéra de Katsu et éventuellement Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni. Mais c'est oublier des symphonies, de la musique de ballet, des quatuors à cordes, des cantates, d'autres opéras, des comédies musicales. Entre son Allemagne natale et l'Amérique, où il trouve refuge, fuyant le nazisme, Kurt Weill aborde tous les styles, tous les genres, avec un esprit ouvert, un œil neuf, une oreille curieuse. Je vous propose donc de mieux connaître Kurt Weill en compagnie de mon invité, Bruno Giner, qui vient de lui consacrer une biographie. Kurt Weill de Bruno Giner, chez Bleu Nuit Éditeur.
Durch ein kleines Lied deutet Polly ihren Eltern ihre Verheiratung mit dem Räuber McKees an. Sie berichtet von ihrer lange bewahrten Unschuld und ihrem Vorsatz, in allen Lebenslagen den Kopf oben zu behalten. Sie führt Beispiele ihrer Standhaftigkeit an. Jedoch eines Tags,
und der Tag, der war blau, da kam einer, der mich nicht mag. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war auch sonntags nicht rein, und als er nicht wusste, was ich bei einer Dame schick, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht, ach, es war das vor der Woche losgemacht und es konnte gar nicht anders sein. Ja, da muss man sich doch einfach hinlegen. Ja, da kann man doch nicht kalt und herzlos sein. Ja, da musste es doch geschehen. Ach, da gab's überhaupt kein Nein.
Enregistré à Berlin en 1930, c'était un extrait de l'opéra de Katsu de Kurt Weill avec Lotte Lenial, Lewis Root Band, dirigé par Theo McEben. Bonjour Bruno Giner.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur, vous êtes compositeur, vous êtes donc l'auteur de cette biographie consacrée à Kurt Weill qui vient de paraître chez Bleu Nuit Éditeur. Je le disais en introduction, effectivement, on a comme tendance, en tout cas en France, à réduire la Kurt Weill à cet opéra de Katsu que l'on connaît assez bien, quand même, il faut le reconnaître, alors que son œuvre est pluridisciplinaire et d'esthétique vraiment très, très, très différente. Peut-être quelques mots, quelques repères quand même biographiques. Il est en 1900 à Dessau, dans le centre de l'Allemagne, ce qui était après en Allemagne de l'Est. Son père était cantor, c'est ça, dans une synagogue. Oui, sa formation musicale, il l'obtient comment? Comment est-ce qu'il la réalise?
Dans un premier temps, il commence la musique à la maison, en fait, oui, tout simplement, mm-hmm, puisque il s'imbibe de toute cette tradition juive qui est très très musicalisée. Il est très très doué tout de suite. Donc il prend ses premiers cours de musique avec son père, à la maison. Et ensuite, très rapidement, il travaille avec Albert Ping, qui était chef d'orchestre, deuxième chef d'orchestre au théâtre de Dessau, qui est son premier professeur, avec qui il reste quelques années, avant d'intégrer un peu plus tard la Hochschule de Berlin.
Berlin, oui, c'est ça. Oui.
Voilà, où il se retrouve avec un étude supérieure, et notamment en composition avec Humperdinck, avec qui il s'entend beaucoup moins bien.
et si j'en crois votre travail, il y a quand même quelqu'un qui l'a beaucoup marqué dans ses années à Berlin, c'est Busoni.
Alors, après, justement, il reste pas à la Hochschule, en fait. Mmh. Il reste une année. Il est obligé de repartir à Dessau et pour travailler. Et quand il revient à Berlin, en 22, il intègre effectivement l'Académie prussienne des arts avec Busoni qui vient d'être nommé, puisqu'on est en pleine effervescence dans la grande période de stabilité de la République de Weimar. Mmh. Et où Leo Katzenberg, qui est, on pourrait dire ministre de la Culture, ça serait l'équivalent. À l'époque, nomme justement un certain nombre de personnalités musicales de niveau international dans les institutions de la Nouvelle République.
Mmh. Bruno Giner, l'œuvre de Kurt Weill est vraiment plurielle, on va pouvoir s'en rendre compte, je pense, durant cette émission. Est-ce que vous pensez que le contexte politique et social qui a joué un grand rôle dans la carrière et dans la vie de Kurt Weill a vraiment eu une influence capital sur son travail de compositeur? Est-ce que c'est parce qu'il est né à cette époque en Allemagne qu'il a écrit une telle musique?
Je pense que Kurt Weill a toujours été quelqu'un de très engagé en réalité. Par exemple, puisqu'on parlait de sa formation, de sa jeunesse, à 14 ans, il est dans les Freikorps. Il est très bismarckien. Péché de jeunesse, parce que ça c'est très droitier, je dirais.
Oui, oui, oui.
Après, il est devenu antimilitariste et plutôt, on dirait, de gauche. Mais donc, il a toujours été très engagé à tous les moments de sa vie. Effectivement, là, sa musique a une dimension, il a toujours revendiqué une dimension sociale à sa musique, c'est-à-dire anti-bourgeoise, on va dire. Et aussi, les rencontres qu'il a pu faire, notamment avec Brecht et d'autres après, il a gardé ce côté d'engagement. Et on le retrouve après aux États-Unis. Par exemple, il fait partie du comité anti-isolationniste qui était contre l'entrée en guerre des États-Unis. Et il a aussi, dans sa trajectoire plus tard, il s'est engagé par rapport à sa judaïté, qui était importante quand il était jeune, après qu'il a laissé de côté pendant très très longtemps, mais où il est revenu vers la fin de sa vie. Enfin, la fin de sa vie, il savait pas que ça serait la fin de sa vie, vers une période de maturité, on va dire. Et il s'est engagé aussi là-dedans. C'est un des premiers qui a écrit une œuvre dédiée aux millions de juifs morts en 43 déjà, qui s'appelle « We'll Never Die ». Donc voilà, cet engagement, il parcourt effectivement toute sa vie, à quels que soient les endroits, et multiforme.
Thank you.
Difficile de deviner qui est le compositeur de cette première symphonie, en tout cas le début de cette première symphonie, musique très expressionniste, hein, Bruno Giner. C'était Kurt Weill, hein, le début de cette première symphonie qui date de 1921, l'orchestre symphonique de Bornemousz dirigé par Marin Alsop. Donc vraiment le premier Kurt Weill. Très différent de l'image que l'on a, par exemple, de l'opéra de Katsu qu'on a pu entendre tout à l'heure, ou d'autres musiques qu'on entendra par la suite.
Oui, c'est ça. En fait, il réalise ça juste avant de rentrer chez Busoni en 21. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Busoni n'était pas très fan de cette symphonie, à part le Larghetto plus tard. J'allais dire Schoenberg. Kurt Weill est effectivement dans un style encore un peu expressionniste, comme un peu le premier Schoenberg.
Oui, exactement. Ouais.
D'ailleurs, à un moment donné, il a failli aller travailler avec Schoenberg. Il a eu cette envie-là, puis il l'a pas fait pour d'autres raisons, mais bref. Et c'est petit à petit qu'il va se... En fait, ce qui lui manque à ce moment-là, après, chez Busoni, il va écrire Zauberhart, un ballet, un quatuor à cordes, le Quodlibet, le concerto pour violon. Et ce qui lui manque, après, au terme de ces quelques années auprès de Busoni, c'est un opéra, en fait.
Mmh. C'est-à-dire qu'à l'époque... Il lui manque pourquoi ? Parce qu'il fallait pour être...
À l'époque, pour se faire un nom. C'est ça.
Oui, ça a toujours été, d'ailleurs.
À Berlin, à ce moment-là, oui, mais là, c'était encore peut-être plus que qu'ailleurs. Enfin, en France, à la même époque, c'était un peu pareil,
bien
c'est
sûr.
Vrai.
Oui.
Donc, il lui manquait à son catalogue un opéra, vraiment un opéra. Et c'est pas l'opéra de Katsu qui est sorti en premier, c'est Der Protagonist, qui est un opéra qu'il a réalisé avec George Kaiser, qui était un grand, grand dramaturge, beaucoup plus âgé que lui, d'une génération.
Oui, il y avait plus d'une génération d'écart.
Absolument, qui a été son premier gros succès. À telle enseigne qu'ils ont refait un autre opéra, le Tsar se laisse photographier, qui est l'opéra bouffe, quelques années après. Et comme le protagoniste et le tsar étaient de durée, on va dire, moyenne, ils ont eu l'idée de les coupler pour faire une grande soirée.
Et alors, est-ce que, déjà, à cette époque, Bruno Giner, Kurt Weill, quand il pense opéra, évidemment, il va vouloir sortir de la norme, il ne va pas vouloir présenter le grand opéra post-romantique que l'on peut attendre. Est-ce que déjà, donc, quand il appréhende le genre lyrique, il sait qu'il va présenter quelque chose de neuf, de différent ?
Absolument. Il est très, très... comment dire ça, anti-wagnérien en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, voilà, Wagner prend toute la place, on a Strauss aussi, etc. On a ces gros orchestres post-romantiques. Voilà, et il va prendre le contre-pied total de ça.
Donc petit effectif. Petite longueur aussi.
Absolument.
De l'opéra. Ouais.
Tout à fait, opéra non acte. Et il va farcir, on peut dire, toute la dramaturgie avec des pantomimes, avec des ballets, avec un tas d'autres formes musicales qui étaient déjà préconisées par Busoni en fait. Et donc, il va plus s'inspirer du Singspiel, en fait, allemand, qu'on peut tracer, genre la flûte enchantée, Carmen, d'une certaine façon, et Arlecchino de Busoni, qui est un opéra non-acte. Il va plus être dans cette veine-là pour, effectivement, complètement rénover le genre.
Mmh. Alors, donc, qui dit rénovation, dit peut-être risque d'un accueil un petit peu tiède. Comment est-ce que, justement, ces premiers essais lyriques de Kurt Weill ont-ils été reçus ?
Eh ben, en réalité, ça s'est plutôt bien passé.
Ouais.
Voilà. Même ses premiers opéras, le protagoniste, Royal Palace, qui est un exemple typique de Zeitoper, opéra d'actualité de l'époque, ont plutôt eu des bons succès, on va dire. Kurt Weill travaillait beaucoup, il avait une puissance de travail assez impressionnante comme compositeur. Il était tout le temps en train d'écrire, il menait plusieurs projets simultanément. Il était joué beaucoup, dans toute l'Allemagne, et jusqu'à l'explosion de l'opéra de Katsu, qui effectivement là a été un immense, immense succès en 1928. Mm-hmm. Et pour la petite histoire, en fait, c'est Krenek qui avait eu le plus grand succès juste avant, l'année d'avant, avec son opéra Johnny Spielhoff.
Ouais.
Voilà.
Mm-hmm.
Et l'opéra de Katsu a fait ce deuxième grand succès de Weill, qui devait être quand même un tout petit peu jaloux de ce... Je dis ça parce qu'il a écrit un article un peu en se moquant un peu de Krenek et de justement sa vision du Zeitoper, etc. à l'époque. C'était un grand polémiste aussi.
Wenn uns gehört,
Vendeuse, Wir sind zwei Mädchen, interprété par Catherine Wynne Davis, Katharina Carneus. Le London Symphony était dirigé par Markus Stenz. C'était un extrait de Der Silberse de Kurt Weill. Bruno Giner, donc c'est une œuvre qui date de 1933. Weill est encore en Allemagne ou il s'apprête à quitter l'Allemagne?
Alors, il va quitter l'Allemagne. C'est la dernière œuvre qu'il a faite en Allemagne. Et après la création de Silberse, donc du Lac d'Argent, qui s'est pas très très bien passé en fait, il y avait beaucoup de pression déjà, le nazisme était très très présent dans l'ensemble de la société allemande. Il y avait déjà eu les scandales avec Mahargoni en 31, où les représentations avaient été beaucoup perturbées par l'ASA notamment, etc. Silberse aussi, Kaiser était
a été aussi
stigmatisé par les nazis. D'ailleurs, en mai 33, une fois Hitler a accédé au pouvoir, sur les autodafés de livres, les ouvrages de Kaiser ont été brûlés, jetés dans les flammes. Bon, mais Kurt Weill était déjà parti, et donc après effectivement la création qui était en mars de Silberse, Kurt Weill quitte l'Allemagne effectivement en mi-mars, entre le 21 et le 23 mars, avec sa voiture. Et le couple Neher, qui était Kaspar Neher, qui était le scénographe en fait de la plupart de ses opéras et qui travaillait avec Brecht, et sa femme, et l'hôtelier, mais qui le laisse à la frontière puisqu'elle va rejoindre son amant en Italie.
Et alors, on a évoqué donc Georg Kaiser, vous avez évoqué aussi Bertolt Brecht, qui était aussi un des principaux librettistes de Kurt Weill. Quelle était la relation entre les deux hommes et qu'est-ce que Brecht a pu apporter à la musique de Weill, peut-être pas à la musique, mais en tout cas dans la conception de la musique, le rôle que pouvait avoir la musique au théâtre, à l'opéra, le rôle, est-ce que c'est un rôle de commentaire, est-ce que c'est un rôle d'illustration, Bruno Giner?
Oui, alors Justement, après sa collaboration fructueuse avec Kaiser, il rencontre Bertolt Brecht, qui est de sa génération, pour le coup. Et effectivement, il lui consacre deux émissions de radio, déjà en chronique, puisqu'il travaille à la radio, Kurt Weill, à un moment, à la radio de Berlin. Et il rencontre Brecht comme ça. Et effectivement, les idées de Brecht sur le théâtre, donc tout le théâtre épique, la distanciation, etc., rejoignent en fait les idées, en gros, de Busoni et de Weill sur l'opéra.
C'est-à-dire le rejet déjà d'un grand sentimentalisme, de l'emphase, de tout ce post-romantisme.
C'est ça, exactement. Donc Weill dit ça, d'ailleurs il écrit tout de suite, le nouveau théâtre d'opéra qui naît aujourd'hui a un caractère épique, il ne veut pas représenter mais instruire, il ne veut plus créer son action d'après des moments de tension mais traiter de l'homme, de ses actes et de ce qui les motive. Donc on a bien cet effet voilà, de distanciation complètement, où on n'est plus dans la dramaturgie wagnérienne, etc. Donc cette rencontre avec Brecht est très fructueuse. Après, leur relation a été compliquée. C'est-à-dire qu'au début, ils s'entendaient bien. Ils ont travaillé tout de suite. La première chose qu'ils ont fait, c'est Mahagoni Jones Spiel. Ensuite, l'opéra de Katsu. Ensuite, Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni. Le Berliner Requiem, ouais, berlinois. Ouais. Et ensuite, ils ont commencé à être...
Moins d'accord.
Moins d'accord pour des histoires, notamment de droit avec le film qu'a fait Pabst sur l'opéra de Katsu. Version allemande et version française. Voilà. Et Brecht tirait beaucoup la couverture à lui quand même sur ses textes, sur les livrets. Il écrivait lui-même les songs, par exemple, à telle enseigne que Weill, à un moment donné, dit, on dirait que, si on en croit ce qu'on dit, que c'est Brecht qui a écrit ma musique. Non.
Voilà. Ouais, il se sentait presque dépossédé, quoi.
C'est ça. Ouais. Et à tel point que, en 33, donc, effectivement, Weill quitte Berlin pour Paris. S'installe dans un premier temps à Paris, puis après à Louvain, et il a tout de suite une commande qui sont les 7 péchés capitaux. Et Brecht revient exprès, parce que Brecht est parti aussi en exil, puisqu'il était vraiment sur les listes noires nazies en tant qu'auteur et en tant que surtout communiste. Donc Brecht revient à Paris pour finaliser les 7 péchés capitaux avec Weill, et ensuite ils se verront plus pendant très longtemps. Ils se retrouveront aux États-Unis plus tard, mais c'était plus la même relation.
It's nearly a year, Stephen, since we had a letter from our son. We do not know him now. He has been in the mines.
We must not cease to believe in him. We must love him and not doubt him.
How many miles to the heart of a child? Thousands of miles, thousands of miles. When he lay on your breast, he looked up and smiled. Across tens of thousands, thousands of miles. Each lives alone in a world of dark, crossing the skies in a lonely arc. Save when love leaps out like a leaping spark. Over thousands, thousands of miles, not miles, or walls or length of days, nor the cold out of midnight can hold us apart, for swifter than wings of a morning, the pathways of the heart. How many miles to the heart of a son? Thousands of miles, thousands of miles. Farther off than the rails are the roadways run. Across tens of thousands, thousands of miles. The wires and the ways reach far and thin to the streets and days that close him in. But there as of old he turns round to grin. Over thousands, thousands of miles, not miles or walls or length of days, nor the cold of midnight can hold us apart,
or swifter than wings of the morning, the pathways of the heart. Over tens of thousands of miles.
Todd Duncan, accompagné par un orchestre dirigé par Maurice Levine, c'était Thousands of Miles, extrait de Lost in the Stars de Kurt Weill. Bruno Ginel, une des dernières œuvres de Kurt Weill, une œuvre américaine, 1949, puisqu'il meurt l'année suivante, en 1950. Un style, là encore, différent. Il appelle ça une tragédie musicale, c'est ça ?
Tragédie musicale, oui, pour le différencier de toutes les autres choses qu'il a fait aux États-Unis, qui s'appelaient plutôt des comédies musicales. Ah, et oui. Tragédie, puisque ça parle de l'apartheid, de la ségrégation. C'est ça, et oui. C'est tiré du livre d'Alan Paton, « Pleure au pays bien-aimé ». Et c'est vrai que ça reflète aussi un des engagements de Weill.
À nouveau, oui, on retrouve.
Ouais. Oui,
ouais, ses convictions. Ouais.
Des convictions, ouais. Voilà, ouais. Antiracistes. Mm. Ce qui, aux États-Unis, à cette époque-là, était quand même courageux et pas si évident.
Mm. Alors, Bruno Giner, cet exil de Kurt Weill aux États-Unis, c'est pas le seul, évidemment. Il y a beaucoup de compositeurs, Bartok, Schoenberg et plein d'autres. Qu'est-ce que ça a changé sur son style musical ?
Alors, d'abord, son projet initial, c'était pas d'aller aux États-Unis, c'était vraiment d'aller en France. Mm-hmm. Il est resté 33-35 en France, et ça s'est mal fini, avec cette incidence Al Pleyel, de Florent Schmitt, qui écrivit Hitler, etc. Et il s'est heurté, bon, ce qu'il a pas mal déprimé, Weill. Et d'ailleurs, il a dit à Maurice Jobert, qui était un de ses amis en France à ce moment-là, « Ai-je bien mérité ça ?» dans les coulisses au moment de l'incident qui a été relayé par la presse, par l'Action française, etc. Et donc il s'est confronté globalement à un antisémitisme français très virulent et paradoxalement à cette époque-là plus virulent qu'en Allemagne en 33 on est. Donc il part aux États-Unis pour un projet en fait qui est The Eternal World, qui va renouer avec sa judaïté, puis qui le projet finalement tarde, etc. Bon, bref, il débarque à New York. Là, il va rencontrer le groupe théâtre avec des librettistes comme Paul Green ou Maxwell Anderson, avec qui il va avoir le même rapport qu'il avait avec Kaiser ou avec Brecht en Allemagne. Il va travailler avec Ira Gershwin, puisque la première chose qu'il fait en arrivant, il assiste à la création d'un Américain à Paris, de Gershwin. Et donc après, il va travailler avec son frère. Et voilà, il va faire une grande carrière. Son premier gros succès, c'est Lady in the Dark en 41. Et à partir de là, voilà.
D'accord, la suite, on la découvrira en lisant votre livre, Bruno Giner, qui vient de paraître chez Bleu Nuit Éditeur, consacré donc à Kurt Weill, bien évidemment. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Philippe Mercher, attaché de production Annie Comier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.